Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, politiques.
J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique.
People are suffering. People are dying. How dare you?
C'est même pas la faute des juges, c'est le système.
J'irai où je veux, je tracerai ma route.
La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi.
Bienvenue dans la
Boom.
Poudre.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Pomme.
Mine de rien, le lesbianisme est aussi une bonne façon de se détacher du regard de la société, puisque le regard de la société est principalement masculin. Et être en couple avec une femme, c'est aussi redécouvrir la liberté d'être regardée ou non et de s'en foutre complètement.
J'ai toujours perçu Pomme comme une jeune femme surdouée, maîtrisant à la perfection chacune de ses apparitions artistiques. Cela fait des années que je fredonne ses chansons, mais j'ai mis du temps à entrer de plein pied dans son univers. Et puis, cet automne, j'ai été accrochée dans son dernier album par son titre hommage à Nelly Arcan, une autrice canadienne, travailleuse du sexe, conspuée, célébrée, suicidée, dont la figure me fascine depuis longtemps. Je me suis alors enfin immergée dans son œuvre. La musique de Pomme est aquatique, aqueuse même. Ça ne sert à rien de s'en approcher si on n'a pas envie de se mouiller, de verser quelques larmes, de se répandre en émotions. J'ai bu tout Pomme à grande rasade nostalgique et je me suis laissée complètement happée par son magnétisme de sirène. Je me suis noyée dans ses textes, habitée de mélancolie et d'ironie douce, bercée par ses mélodies profondes et entêtantes. Pendant notre entretien, j'ai trouvé chez elle, pourtant si jeune et au parcours si lointain du mien en apparence, beaucoup de points de résonance avec moi. Et j'ai compris que sa solitude, sa colère et son espérance étaient aussi les miennes. Avec Pomme, on a parlé de religion, de beauté et d'isolement. Pomme, vous êtes chanteuse, musicienne, autrice-compositrice. Votre dernier album, Consolation, fait bien le job. Il console de plein de trucs, merci pour ça. J'écoute en boucle quelques-unes de ses chansons, notamment Nelly, qui me bouleverse pas mal, et Very Bad, qui est vraiment collector. Mais Pomme, surtout, vous êtes une bête de scène. Vous avez donné depuis vos 14 ans, date de votre premier concert, plus de 500 shows. Vous vous êtes produite sur des scènes de tout type, de toute taille, devant des publics massifs, des salles clairsemées, des théâtres mythiques, des bars de province. Et tout récemment encore, à New York, vous avez sold out tous les billets alors que c'était la première fois que vous y mettiez les pieds. La scène, c'est votre élément, le lieu où vous avez toujours voulu être et le lieu où vous imaginez probablement mourir un jour. Et en écrivant ce texte, j'ai réalisé que quand on dit « bête de scène », on pense à Mick Jagger. Mmh. On imagine de la sueur, des gesticulations, de la fumée, du feu, des guitares cassées, des effets spéciaux. On imagine quelque chose d'assez violent et au fond d'assez viril. Vous, votre performance scénique, elle est minimaliste, contenue, maîtrisée. Et pourtant, les gens sortent de chez vous complètement exaltés. Il se passe quelque chose quand vous êtes sur scène, de l'ordre, de l'envoûtement, du sortilège. Quelque chose qui transcende à peu près tout le monde, et vous la première. Alors je voulais qu'on commence par là. Il se passe quoi précisément quand vous êtes sur scène, Pomme ?
C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'on on associe vachement l'idée d'être très performant sur scène à l'idée de faire du bruit, de faire danser les gens, de se jeter dans la foule. Et moi, c'est presque un genre de complexe que je peux avoir de remplir des salles avec de la musique très minimaliste. Parfois, je me demande si c'est légitime de faire d'aussi grandes salles et de, et de, par exemple, jouer devant des publics de gens debout. Je me dis, mais en fait, pourquoi les gens sont debout alors que ma musique s'écoute vachement bien assis aussi? Et en même temps, moi, j'ai envie qu'il y ait cette énergie-là de connexion, d'intensité. Et j'ai appris avec ma musique et avec les concerts qu'on pouvait être transcendé par un concert minimaliste, qu'on pouvait emporter avec soi un grand nombre de gens avec de la musique douce, de la musique acoustique. Et souvent, même encore à ce jour, après presque 10 ans de concerts, je dis à la fin des spectacles aux gens à quel point je suis émue et étonnée qu'il y ait autant de monde qui vienne écouter cette musique-là, pas dans des théâtres ou dans des petits écrins, mais dans des grandes salles où le reste de l'année, c'est des groupes de rock, des groupes de pop, des groupes de musique très, très, beaucoup plus amplifiés et beaucoup moins minimalistes. Et moi, j'ai grandi avec la scène. En fait, j'ai toujours été sur scène, j'ai toujours était comme à la maison sur scène. J'ai commencé très très jeune, même avant 2014, j'étais dans une chorale un peu semi-professionnelle pendant 10 ans, de mes 8 ans à mes 18 ans, où on faisait des concerts dans des églises, mais aussi à l'international, dans des festivals de chorale. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. La première fois que je suis allée au Canada, c'était avec ma chorale. Je suis allée en Chine, je suis allée en Europe. Et en fait, je me suis construite avec le regard des spectateurs sur moi depuis que j'ai 8 ans. Et donc, il y a quelque chose de rassurant pour moi dans le fait d'être sur une scène. Et en même temps, quand mon projet a grossi et que je me suis mise à avoir du succès, j'avais ce truc d'illégitimité de remplir autant de salles avec de la musique aussi minimaliste. Et c'est marrant d'entendre ce terme de bête de scène parce que, à la fois, mon projet, il s'est vraiment construit par la scène et c'est grâce à la scène que j'ai fini par vendre des albums parce que mon premier album, il n'a pas du tout marché et en fait, j'ai quand même fini par faire le Trianon à Paris alors que je n'avais pas vendu d'album parce que les gens venaient par la scène et qu'il y a eu un bouche à oreille autour de la scène. Donc, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que peut-être que la scène, c'est un endroit où finalement je suis légitime et que c'est par là que les gens comprennent mon projet. Et en même temps, c'est aussi l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Enfin, c'est un endroit plein de contradictions et de souvenirs et en même temps d'insécurité et de vulnérabilité aussi parce que je chante des chansons hyper intimes et qui racontent ma vie. Donc parfois, je mets une distance sur scène aussi que je ne mets pas forcément dans la vraie vie. Enfin, pour moi, c'est comme un thème à part entière dont je peux parler très longtemps parce que ça fait partie de mon identité. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression que je suis dépassée justement par le fait d'avoir grandi sur scène, quoi, quasiment.
Mais je savais que je mettais le doigt sur un truc. En fait, je me suis rendu compte aussi que vous avez un public qui est très, très investi, en fait. Vous avez vraiment une espèce de fanbase. Moi, ce que j'adore faire quand je vais diguer sur une invitée, c'est aller lire les commentaires sur les choses qu'elle poste. Et vraiment, les gens ont une espèce de puissance relationnelle et émotionnelle qui est certainement aussi dû à l'intimité des textes que vous livrez sur scène. Et bref, je me suis dit, en fait, probablement sur scène aussi, il doit y avoir quelque chose de rassurant dans le fait de finalement pouvoir contrôler aussi ce que les gens voient, ce que les gens regardent. C'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde ne regarde que vous, mais ils ne regardent que l'image que vous avez envie de leur donner. Vous êtes habillé exactement comme vous voulez. Ouais. Tout est orchestré, minuté, comme vous le voulez. Enfin, orchestré, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi que ça qui vous rassure et qui vous libère d'autres angoisses d'une image qui vous échapperait hors de ce cadre-là?
Bah oui, c'est sûr que quand on est sur scène, on est... Justement, c'est cet équilibre entre le contrôle et le fait de choisir sa tenue de scène, de choisir sa setlist, de choisir les arrangements. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai que j'ai une entière liberté sur toutes ces questions-là et il n'y a personne, mais absolument personne qui intervient dans ces choix-là. C'est moi qui dessine toutes mes scénographies, c'est moi qui fabrique la setlist, c'est moi qui choisis mes musiciens, mes musiciennes et que j'essaie de trouver par bouche à oreille et par recherche sur Instagram ou par des contacts. Et du coup, c'est quelque chose qui me ressemble vraiment. Et en même temps... C'est aussi un instant hyper précieux, qui est un instant privilégié, surtout dans le cas où les salles sont remplies et où je me dis, mais c'est incroyable, les gens ont acheté des billets hyper en avance. Il y a tant de gens dans cette salle à Strasbourg, qui est un endroit où je n'ai aucune histoire. Finalement, j'ai aucun lien avec cet endroit. Il y a plein de gens qui viennent me voir et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette ville en exemple, mais c'est parce qu'il y a le marché de Noël, je crois. Et du coup, comme j'aime bien le marché de Noël, j'ai pensé à Strasbourg. Mais... du coup, c'est à la fois une envie de performer et peut-être aussi de... Moi, j'ai besoin d'être toujours dans un truc d'excellence. J'ai toujours eu ce truc où si c'est pour faire un concert moyen, ça m'intéresse pas. Et du coup, c'est un peu fatigant aussi à des moments parce que je suis hyper dure avec moi-même et au moindre petit bris de voix ou petite imperfection à la fin du concert, moi, je dis à mes musiciens, à mes musiciennes, je leur dis « Ouais, non, moi, j'ai pas trop aimé », juste parce qu'à un moment... j'ai eu ma voix qui s'est pétée, alors qu'eux, ils sont capables de me dire « mais c'était trop bien ». Et donc, c'est à la fois un espace de contrôle et donc de confort. Et en même temps, parfois, je me dis que ça pourrait être aussi un espace plus libre et moins cantonné à l'idée de la perfection. Mais moi, ça, c'est un truc global dans ma vie où tout doit être toujours... hyper bien organisé et y a rien qui doit dépasser. Et là, sur ce nouveau spectacle qui est lié à Consolation, le dernier album, j'ai intégré des choses qui me faisaient très peur, genre l'idée de pas jouer d'instrument, par exemple, et du coup d'être présentée aux gens juste avec mon corps et pas d'instrument devant moi. Et ça, ça me terrifiait. Il y a encore 3 ans, je pouvais pas du tout être sur une scène sans avoir une guitare ou un piano. Et pareil, je fais des petites chorégraphies, des micros, trucs, mais que j'ai dû écrire avec une amie à moi pour pas qu'il y ait trop d'improvisation et tout. Mais je me dis que petit à petit, il y a des portes que je peux ouvrir et je me sens assez confiante et puissante et bien avec moi-même pour pouvoir le faire. Mais j'ai besoin d'être accompagnée dans ces trucs-là quand même. Et c'est pour ça, quand on dit bête de scène, il y a presque un truc où je me dis, mais non, en fait, moi, c'est juste que j'incarne mes chansons, mais je serai jamais une bête de scène parce que j'ai pas ce truc où je vais hurler dans mon micro et me mettre par terre et genre faire n'importe quoi, qui est la liberté ultime. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de... Enfin, chacun à son niveau, à son degré de liberté et ce que ça représente, la liberté, pour moi, c'est pas du tout pareil que pour quelqu'un d'autre. Et moi, déjà, le fait, par exemple, de ne pas jouer d'instrument et de danser, c'est déjà un énorme move et c'est déjà quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer il y a 3-4 ans. Et c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, j'ai grandi avec la scène, donc on pourrait se dire, bah, en fait, elle est chez elle et elle fait ce qu'elle veut. Et en même temps, c'est aussi la cristallisation du contrôle, de l'image, de la beauté, de la perfection. Enfin, c'est comme plein d'endroits dans la vie où on est en mode, ouais, là, je me sens vraiment moi-même et tout. Par exemple, la mode ou les vêtements aussi, c'est ça. On se dit, oui, on s'habille comme on veut, ça représente notre personnalité. Mais au final, il y a aussi plein de choses liées aux vêtements qui sont hyper oppressantes. Et je me sens un peu comme ça. Mais de toute façon, tout est très ambivalent dans ma vie. Il n'y a rien qui est tranché, à part mes choix artistiques, peut-être, qui sont vraiment sûrs et certains. Sinon, dans les émotions, j'ai un petit problème avec... avec le flou, quoi. Tout est un peu toujours un peu en construction tout le temps, quoi.
Et pensez à votre frange. Bon, là, vous l'avez plus aujourd'hui, ouais, mais mi-noire, mi-blanche,
oui,
qui racontait bien tout ça. Pomme, vous avez grandi à Caluire, dans la banlieue de Lyon. C'était comment de grandir à Caluire ?
C'est dur à décrire parce que je suis dans une phase de ma vie où, pour la première fois, j'ai un recul un peu... plus neutre sur mon enfance et où il y a assez de temps qui s'est écoulé entre mon enfance et le présent, parce qu'avant, c'était tellement proche, en fait, en termes d'années. Quand j'ai écrit mon premier album, j'avais entre 17 et 19 ans. Et puis quand j'ai fait Les Failles, qui était le deuxième, j'avais entre 20 et 22 ans. Et donc, je parlais pas encore de mon enfance parce que c'était carrément, j'avais l'impression que c'était juste là, à côté, alors que maintenant, ça fait un certain nombre d'années que j'ai été une enfant. Et avec du recul, j'ai vraiment cette sensation douce, amère de cette enfance qui est à la fois un souvenir hyper doux avec beaucoup de... J'ai eu beaucoup de privilèges et j'ai eu beaucoup de confort dans mon enfance à plein d'endroits où j'étais dans une famille qui avait de l'argent. Je suis allée à l'école et j'aimais bien l'école. Je faisais plein d'activités. J'ai eu la chance de faire du solfège, du violoncelle, de la chorale, justement, pendant 10 ans. Et j'étais assez sociable et j'avais des amis. Mais en même temps, j'avais une sorte de tristesse immense toute l'enfance. J'étais hyper, hyper triste souvent, avec comme un poids, quoi, que j'ai porté toute mon enfance. Et un problème avec les émotions et la communication et le fait d'être toujours triste. Et je me souviens que j'avais des grandes crises existentielles et je disais à ma mère, mais en fait, t'es pas ma mère, c'est impossible que tu sois ma mère et tout. Et après, elle me montrait des échographies, elle me disait, mais si, et tout. Et j'étais là, non, c'est impossible, je suis pas dans la bonne famille. Et c'était hyper intense parce que personne comprenait vraiment ça, parce que j'ai des frères et sœurs qui sont tous très, très sages et qui sont... Enfin, c'est même pas de la sagesse, mais qui, en tout cas, il y avait rien qui dépassait. Et moi, j'étais l'élément perturbateur de la famille. Et du coup, j'avais vraiment la sensation... En fait, je pense que je me suis du coup moi-même, et puis aussi avec le contexte de la société et du fait que mes parents ne comprenaient pas trop, je me suis mis dans un rôle de la personne anormale qui ne sait pas pourquoi, mais qui a un problème, quoi, mais on ne sait pas l'identifier. Et j'ai vu des psys hyper jeunes sans savoir trop pourquoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte rapidement que je n'étais pas si sociable, mais que j'étais souvent en train de jouer le rôle de la personne sociable et que je me faisais des amis facilement, mais qu'en fait, c'était dur de les garder parce que j'avais une facilité au début et qu'ensuite, j'étais en mode « Ah, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont hyper compliqués dans l'amitié. » Et ça a duré très longtemps. Mais Caluire et Lyon, en général, c'est une ville qui est déjà très, très chrétienne, pratiquante, avec beaucoup de gens très catholiques, et dont ma famille. Et donc, j'ai baigné aussi dans la religion et l'idée qu'on est tous ensemble dans un truc religieux avec des croyances et tout. Croyance auxquelles finalement je me suis jamais sentie vraiment rattachée, et quand j'ai grandi, j'étais en mode waouh, au revoir, genre jamais de la vie je peux adhérer à ça. Donc mon enfance, elle est à la fois, en fait c'est comme si j'ai l'impression d'avoir passé mon enfance à Disneyland, et en même temps quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que Disneyland c'était horrible en fait, et que genre il y avait tout un tas de gens qui étaient hyper malheureux, qui étaient hyper malsains, et qui, en fait, faisait semblant et était dans des costumes de personnages de Disney. Et que quand t'es enfant, tu peux pas te rendre compte que c'est pas les vrais personnages, mais qu'il y a des gens à l'intérieur des costumes. Et donc, j'ai vraiment cette sensation. Et je parle dans mon album, une chanson qui s'appelle Jardin, où je parle de ça. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis exactement dans la période de milieu vingtaine, où je suis en train de processer plein de trucs et de me dire, mais en fait, ça, c'était pas du tout normal. Et puis... Je comprends aussi avec le recul que cette espèce de sensation d'anormalité était liée peut-être à l'environnement dans lequel j'ai grandi, à la religion, au fait qu'il y avait ma famille qui était la cellule religieuse, mais il y avait aussi toute la ville de Lyon qui était une ville organisée autour de la religion chrétienne, en fait, et où moi, mon environnement, c'était ça. Et en fait, les années de mon enfance, de la primaire, au final, là, en ce moment, dans ma vie, quand j'y repense, c'était pas des années hyper joyeuses. Et j'ai commencé à trouver une identité et à tranquillement faire mon chemin beaucoup plus tard. Et en fait, j'étais beaucoup en représentation et j'étais beaucoup en train d'essayer d'être quelqu'un que j'étais pas. Et en même temps, j'aimais beaucoup l'école. Donc ça, c'était des bons souvenirs d'être une bonne élève, d'avoir des bonnes notes. Et l'autre jour, j'ai regardé mes bulletins scolaires. Et en fait, il y a un truc qui est assez parlant, où quand je suis en primaire, genre les profs, ils m'adorent, ils disent que des trucs positifs, j'ai que des bonnes notes. Et puis au fur et à mesure, je pense de l'adolescence et du fait de me rendre compte que je jouais un rôle aussi quand j'étais enfant et que en fait, je me sentais en décalage, je me mets à avoir plein d'avertissements, de bavardages. Et en fait, j'avais plus jamais genre, les félicitations de mes profs parce que je faisais que de parler, de contredire les professeurs. Et ce, jusqu'à la terminale, en fait. Et ouais, il y a vraiment eu un moment où j'ai eu l'impression de me dédoubler.
Un décrochage, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais c'est marrant parce que cette éducation catholique que vous avez reçue très forte, qui vient beaucoup de votre maman, si j'ai bien compris, j'ai l'impression que quand j'écoute votre musique, moi, j'en trouve des traces. Parce qu'il y a une dimension très spirituelle, en fait, aussi, dans vos textes. Il y a quand même une connexion... Enfin, on sent une connexion au plus grand. Enfin, voilà, j'ai eu l'impression de retrouver quand même pas mal de codes. Bon, après, c'est des codes que je reconnais parce que j'ai moi aussi baigné dedans petite. Que ça laisse des traces, en fait, même si on rejette la religion, sa pratique, et puis évidemment son homophobie et tout un tas de choses qui vont avec. Ça imbibe quand même
c'est
culturellement.
Sûr. C'est sûr, et même il y a beaucoup de gens qui me disent que dans les mélodies et dans même la musicalité de mes albums, il y a des traces de... presque de musique d'église. Il y a une chanson sur les failles qui s'appelle Chapelle, que j'ai enregistrée dans une chapelle, où c'est de l'improvisation vocale. Et où moi, j'ai cette acoustique de réverb, je l'ai connue toute mon enfance, parce qu'en allant à la messe, en fait, on entend des chants d'église. Et il y a toujours ces réverbes dans les églises. Et il y a des choses dans l'iconographie de l'Église et de la religion chrétienne qui sont très belles aussi et qui aujourd'hui, je suis capable de voir la beauté dans certaines représentations de la religion, genre les vitraux dans les églises. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique et il y a des choses qui sont très, très belles et inspirantes. Et c'est sûr que ça fait partie de mon identité et que, adolescente, j'ai beaucoup rejeté, j'ai beaucoup dit non, mais en fait... moi, je ne suis pas cette personne. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a aussi des choses dans la musique qui font toujours partie de mon identité musicale. Et puis, à la limite, c'est chouette si ça se niche maintenant juste dans ma musique et si ça, c'est plus dans ma vie personnelle et c'est plus quelque chose que je cultive, mais qu'il y a des restes. Parce que la musique, les musiques religieuses en général, souvent, c'est hyper beau, en fait. Et quand on enlève... toute la partie texte et théorie et pratique et voilà, bon, il reste en fait des choses plus artistiques dans la religion et c'est vrai que même encore à ce jour, moi je vais une fois par an, genre à la messe de Noël, quand je suis avec ma famille à Noël, et les chansons de Noël dans une église, c'est toujours quelque chose que je trouve beau, quoi. Mais oui, c'est dur pour moi de dissocier la musique chrétienne de quelque chose d'assez violent au final quand j'étais enfant et de violent pour plein de gens. Et puis, je suis toujours un peu triste de rencontrer des jeunes personnes de mon âge qui sont très, très extrêmes. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même de se battre pour des droits humains et pour des concepts qui n'existent même pas. Ça reste toujours une partie de mon identité, mais maintenant j'ai l'impression de savoir en tirer des belles choses, quoi.
Et avec votre famille, ça se passe bien, le fait que vous ayez rejeté ça, personne ne vous l'a reproché
Non, parce qu'en fait, ma mère, elle est très chrétienne et pratiquante, mais dans une genre de discrétion et de respect des autres. Et c'est pas une chrétienne qui veut prêcher pour... la chrétienté, et en fait, elle est plutôt très ouverte et moderne. Elle s'est toujours intéressée beaucoup aussi aux autres religions. Moi, je l'ai toujours vue. Elle a fait une licence à la faculté quand elle avait genre 40 ans en théologie pour comprendre aussi les racines des autres religions. Et elle s'intéressait beaucoup aussi à d'autres religions avec plusieurs dieux et tout. Et elle a toujours été assez ouverte. Je sais bien que voilà, la religion catholique et chrétienne, c'est sa religion principale. Mais en fait, je l'ai jamais vue. C'est pas directement elle qui représentait cette potentielle violence ou le rejet d'une partie de mon identité. Même si elle, au début, quand je lui ai dit la première fois que je suis tombée amoureuse d'une femme, elle était hyper perturbée parce que il y avait des choses académique qui était organisée dans la religion qui allait complètement à l'encontre du fait que moi je puisse... En fait, elle avait du mal, je pense, pas avec l'idée que je sois tombée amoureuse d'une femme, mais avec l'idée que ça puisse se transformer en un mariage ou se transformer en quelque chose qui porte un nom avec des catégories. Et en fait, ça lui a pris un petit temps, mais non, elle est vraiment... ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup d'elle et elle est très ouverte et elle aime parler de la religion, et si on lui en parle, elle est heureuse. Mais moi, je fais tout le temps des blagues. Genre, l'autre jour, j'ai fait un concert, et elle est venue, et j'ai dit aux gens, voilà, vous allez assister à une messe triste. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a dit, c'était une super messe. Et j'ai dit, ah bah merci, en plus, c'est rare, les super messes. Et il y avait ma mère dans la salle, et je sais très bien que ça l'a fait rire, quoi. Et qu'elle a aussi toute une conscience de l'aspect radical de la religion. Elle, ça la désole qu'il y ait des gens... qui soit aussi fermé d'esprit et ça voilà. Et puis il y a eu aussi plein de scandales à Lyon avec des prêtres pédophiles et ma mère, il y en a plein qu'elle connaissait, et donc elle a eu des grosses remises en question aussi. Enfin, elle est très mais ma mère, elle écoute des podcasts féministes et elle lit des livres féministes, et juste parfois elle n'arrive pas trop à le mettre en pratique dans sa vie de femme cinquantenaire, mais elle est très très éveillée sur ces sujets là et ça, c'est trop bien. Et en plus, elle le fait parce qu'elle s'intéresse aussi à ma vision des choses et tout, donc c'est une chance, quoi.
Trop bien.
Ouais.
Franchement chouette.
C'est sûr qu'elle va écouter le podcast.
J'ai vu une vidéo de vous. Vous avez 16 ans, vous êtes en duo avec un chanteur dont on a oublié le nom. Désolée pour lui. Et ce qui frappe, en fait, sur ces images, c'est à quel point vous êtes en tout point la jolie fille du lycée. Vous avez les cheveux très très longs, vous êtes là toute mince, avec le petit gloss, etc. C'est vraiment, alors il y a tous les codes vestimentaires de l'époque, le petit jean taille basse, le petit t-shirt un peu moulant et tout. Et ça m'a fait penser à une phrase que je vous ai entendu dire en interview, qu'il a fallu du temps pour savoir qu'on ne se satisfait pas d'appartenir au catalogue des belles gosses sur Facebook. Et je m'interroge sur le rapport à votre beauté, à votre féminité, et comment ça a pu basculer entre cette jeune fille de 16 ans toute glossée avec ses longs cheveux et puis la pomme que j'ai face à moi qui est tout aussi belle, mais dans une façon bien différente de le vivre.
Bah ouais, j'ai tellement changé. C'est tellement une large question et en plus c'est vraiment un des sujets principaux dans ma vie et c'est aussi pour ça que j'aime autant Nelly Arcan et que ça me touche autant qu'elle ait parlé de ces sujets-là et de la beauté et des codes de féminité dans les années 2000 et d'écrire des livres là-dessus et qu'en fait personne l'ait vraiment prise au sérieux. C'est un truc qui est viscéral pour moi où je me dis mais c'est pas possible que cette femme soit décédée. Enfin, il y a vraiment... c'est un sujet...
Peut-être que je fais une micro-parenthèse pour les personnes qui écoutent Nelly Arcan.
Oui, je l'ai pas présenté.
Non, mais bon, c'est
important.
On en a déjà parlé dans La Poudre. La première fois qu'on en a parlé, c'est Ovidide qui m'en a parlé d'ailleurs. Donc, c'est une autrice québécoise.
Ouais.
Son principal roman, c'est Putain.
Ouais.
Elle a été travailleuse du sexe. Elle a parlé sur cette expérience travailleuse du sexe. Elle a évidemment été harcelée, conspuée dans l'espace public. Et elle a fini par se donner la mort.
Exact.
Et vous lui avez dédié une chanson magnifique dans cet album qui s'appelle Nelly.
Ouais.
Et moi, ouais, quand je l'écoute, ça me fait des frissons.
Bah, voilà.
Pardon pour la coupure, mais je voulais la situer pour que tout le monde...
Je fais comme si c'était notre amie et qu'on la connaissait. Mais en fait, c'est ça, c'est une question qui est centrale dans ma vie parce que j'ai évidemment une obsession de mon apparence comme beaucoup de femmes et d'ailleurs beaucoup de personnes dans la société parce que c'est un sujet récurrent, que c'est aussi le point central de privilèges, de plein de choses, d'opportunités, de portes qui se sont ouvertes aussi pour la simple raison que j'avais un physique qui correspondait à des attentes. Et en fait, je crois que les premiers souvenirs que j'ai de mon rapport à mon corps, ça date de l'adolescence, comme beaucoup de gens, parce qu'avant, on n'est pas vraiment confronté à ça, sauf si on se fait bully à l'école parce qu'on a des lunettes ou qu'on est gros, et c'était pas mon cas. Et j'avais rien qui sortait de la norme. Et donc, jusqu'à l'adolescence, j'ai pas trop eu conscience de mon apparence. Et en fait, à l'adolescence, c'est devenu un sujet parce que les adolescents sont cruels et que l'apparence, ça devient la chose la plus importante. Et qu'on se met à sortir avec des gens, à avoir une sexualité et à donc avoir un rapport avec son corps qui est plus aussi lié aux autres et au regard des autres. Et en fait, toute mon adolescence, moi, je me suis identifiée et présentée comme la fille qui était la fille belle, mais qui n'avait pas beaucoup d'autres qualités. Et j'avais l'impression que ça suffisait. Et aussi parce que dans la société, il y avait plein de gens pour qui ça doit être que ça et que c'est suffisant. Et même, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps que j'ai fait un tremplin, enfin une espèce de concours à Lyon quand j'avais peut-être 17 ans. Et c'était que pour les artistes féminines et ça s'appelait « Et en plus, elle chante ». Et
tout est dit.
Et plein de petites choses comme ça. Et voilà, et le catalogue des belles gosses, c'est une anecdote, mais on a été tous et toutes dans des comptes Facebook où il y avait des photos de nous et les gens likaient, et celle qui avait le plus de likes, c'était la meuf la plus belle du collège ou du lycée. Moi, j'ai eu énormément d'histoires avec des garçons, j'étais tout le temps en couple, mais à des âges absurdes, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, et j'avais l'impression que toute ma valeur résidait dans le fait de pouvoir séduire, plaire, être aimée, être belle, correspondre au diktat. Et donc j'avais aussi ce contact très précoce avec l'industrie de la musique à 16 ans. Et où je pense que ça a amplifié vachement ce truc-là, parce que je suis arrivée dans une industrie avec que des hommes plus vieux que moi, qui en plus du coup ont projeté des choses sur moi qui allaient totalement dans cette direction-là et qui me disaient tu vas t'habiller comme ça, tu vas te maquiller, tu vas t'épiler les cuisses et comme ça tu seras vraiment la parfaite petite poupée. Et moi, genre, ça allait finalement dans le chemin que j'avais prévu pour moi, qui était juste d'être belle et d'être insignifiante et belle. Et en plus, rapidement, on m'a fait comprendre que les chansons que j'écrivais, c'était pas suffisant, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui écrivent des chansons pour moi. Enfin, de tranquillement, finalement, donner raison à cette partie de moi qui a toujours existé et qui a toujours pris beaucoup de place. Et en fait, je pense honnêtement qu'il y a deux choses qui ont fait que, à ce jour, je me détache et j'essaie de me détacher, et que c'est d'ailleurs pas un truc qui est acquis jamais, parce que j'évolue dans une industrie qui est aussi une industrie de l'apparence, des photoshoots, des clips, voilà, de l'image en fait. Mais il y a le fait que j'ai eu la chance de voyager au Québec quand j'avais 19 ans, donc très peu de temps après l'adolescence, et de découvrir un endroit où les gens, j'ai l'impression, ils avaient 10 ans d'avance sur nous, sur toutes ces questions-là, sur le féminisme, sur l'identité sexuelle, sur l'apparence, sur toutes les questions sociales en général, et donc de me mouvoir dans une société où en fait les gens me regardaient pas et me dévisageaient pas et me demandaient pas d'être belle ou en tout cas que c'était pas le seul unique but dans les relations. Et ensuite, très peu de temps après ce premier voyage au Québec, j'ai rencontré ma première amoureuse qui du coup a été ma première vraie relation, et je pense que mine de rien, le lesbianisme est aussi une bonne façon de se détacher du regard de la société, puisque le regard de la société est principalement masculin. Et être en couple avec une femme, c'est aussi redécouvrir la liberté d'être regardée ou non, et de s'en foutre complètement, et de se dire, en fait, ma valeur, elle n'est pas uniquement dans mon apparence physique. Mais moi, c'est un truc qui m'obsède et qui m'a suivi longtemps et qui me suit encore à ce jour. J'ai aussi eu toute une phase où j'ai été anorexique parce que j'avais sorti mon premier album et que j'étais déjà obsédée par mon apparence, et que l'idée d'être confrontée à mon image a été vraiment hyper destructrice. Et encore aujourd'hui, là, par exemple, je me suis fait raser les cheveux dans un film que j'ai tourné cet automne. Dans le film, il y a une scène où quelqu'un me rase la tête. Et moi, je me suis détestée pendant 2 mois. Et en fait, là, je commence à avoir assez de cheveux pour les mettre derrière mes oreilles. J'ai l'impression que ça redevient assez féminin pour être acceptable dans la partie de mon cerveau qui est le démon, quoi.
Et surtout, vous avez été harcelée, non ? Enfin, je vous ai vu sur Instagram dire « hallucinant, genre, je peux faire toutes les chansons que je veux, je reçois jamais autant d'insultes que quand je me coupe les cheveux, quoi. » C'est quand même incroyable.
Ouais, quand j'ai posté la photo, donc c'était en novembre de moi avec les cheveux rasés, c'est surtout... qu'il y a genre 1500 personnes qui se sont désabonnées de mon compte.
Incroyable.
Et en fait, sur le moment, je me suis dit non, mais je pense pas que ce soit
ça. C'est
pas
le moment où il y a eu le bug où tout le monde s'est...
Non, vraiment, au début, je me suis dit non, il doit y avoir une raison et tout.
Ça paraît fou, quand même.
C'est impossible. Et en fait, j'ai un peu ignoré. Je me suis dit non, impossible, surtout que les gens qui me suivent sur Instagram, ils sont tellement bienveillants. Après, il y a énormément de gens qui me suivent sur Instagram. Je sais plus combien il y a de gens, mais genre 600 000. Et forcément, donc, sur 600 000 personnes, il y a peut-être des gens qui savent pas trop pourquoi ils sont là et qui, justement, me suivaient parce qu'ils me trouvaient belle peut-être, et qui était en mode c'est du contenu Instagram d'une personne que je trouve attirante et qui est à mon goût. Et c'est justement tout ce qui est très compliqué pour moi du coup à déconstruire, parce que ça voulait dire que du coup il y avait les cheveux rasés, ça provoquait quelque chose chez des gens qui leur donnait pas envie. Et moi, ça fait partie de mes gros triggers, justement, de me dire en fait je suis pas attirante,
je fais plus envie,
voilà. Et en fait, j'ai posté une story un mois après parce que j'ai fait une interview, je suis allée à C'est à vous et j'avais les cheveux très très courts, je venais de me les faire raser, et il y a plein de gens qui mettaient dans les commentaires genre mais c'est trop moche et tout, et vraiment moi ça me faisait de la peine parce que je suis dans ce processus là et qu'en fait j'ai l'impression que ça va me prendre toute la vie avant de me dire mais en fait je m'en fous d'avoir les cheveux rasés ou d'avoir tel ou tel vêtement. Et j'ai mis une story en disant ça commence à me saouler parce que je vais faire une interview, que j'ai les cheveux rasés ou pas, en fait on s'en fout, ceux qui me suivent pour ma coupe de cheveux, vous pouvez vous en aller. Et là j'ai perdu à nouveau 2000 personnes, je crois.
Au moins, voilà. Le tri a été fait.
Le tri a été fait, mais
c'est les gens qui sont là pour la musique.
Voilà, mais il faut se mettre face au fait qu'il y a donc 3000 personnes minimum qui étaient là parce que ils me trouvaient plaisante physiquement. Et en fait, à la fois, je suis contente qu'ils soient plus là, et en même temps, c'est aussi un processus assez compliqué de se dire je perds quand même perdre des abonnés sur Instagram, c'est une nouvelle façon de se sentir rejetée.
Enfin, abandon, en fait, c'est le nouvel abandon.
Donc voilà, c'était assez intense, mais c'est un sujet, et c'est pour ça que Nelly Arcand, justement, s'il y en a qui connaissent pas trop ses livres, c'est intéressant et assez avant-gardiste parce qu'elle allait dans ses émissions de télé et qu'elle disait en fait, moi je subis des pressions du patriarcat et de l'apparence des femmes. Et en même temps, elle faisait de la chirurgie esthétique et elle modifiait son apparence pour correspondre à ça. Et moi, j'ai l'impression d'être elle, mais en 2023. Et que si j'avais pas rencontré mon amoureux justement à 19 ans, à ce jour, j'arriverais pas à me détacher comme j'arrive à me détacher aujourd'hui de mon apparence. Par exemple, le fait d'avoir accepté juste de me faire raser la tête, c'était déjà quelque chose d'important. Même si j'ai pas aimé avoir la tête rasée au début, je l'ai quand même fait au final. Et ça veut bien dire qu'il y a une part de moi-même qui est prête à
m'en lâcher.
Foutre. Ouais.
Non, mais c'est hyper important comme message. Moi, ça résonne beaucoup en moi à 42 ans.
Bah ouais.
Il n'y a pas encore les rides, Pomme, attention. Parce que le vieillissement, c'est encore un autre truc. Hein. Après, le poids, la façon de s'habiller, les cheveux et tout, quand on commence à avoir l'usage qui vieillit, ça devient encore un nouveau dos.
Moi, j'ai envie de me blanchir les dents en ce moment, mais je me retiens.
Ah, c'est vachement mauvais, ça nique les dents.
Bah ouais, et en fait, tout le monde me dit, mais en fait, tu peux pas te blanchir les dents alors que t'as ce discours-là et tout. Et je suis en mode, je sais, je peux pas. Mais vraiment, quand je tourne un film avec que des acteurs qui ont les dents blanchies et que moi, je suis la seule à pas les avoir, j'ai l'impression d'être une putain de meuf sale. Et en fait, c'est un mensonge parce que les autres, ils ont les dents blanchies et personne le sait. Et moi, en fait, j'adorerais qu'on vive dans un monde où tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais où quand t'as fait de la chirurgie esthétique ou que tu t'es blanchi les dents, tu le dis juste pour dire genre bah en fait j'ai cédé, j'ai blanchi mes dents et je suis à l'aise comme ça. Mais comme ça les gens ont pas une image complètement tronquée de ce que c'est que de vieillir et d'avoir les dents un peu jaunes quand juste tu bois un café par jour et que voilà quoi. Et c'est moi je suis totalement dans c'est moins violent que Nelly Arcan parce qu'elle avait peut-être pas aussi tous les outils et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ressources et beaucoup de choses. Moi j'ai grandi dans une génération très, on a été choyés à ce niveau-là. On a beaucoup, beaucoup de ressources, de comptes Instagram, de trucs. Mais.
Oui, en même temps, c'est la génération où tout le monde se prend en photo avec des filtres.
Voilà.
Ou en même temps, on ne sait même plus ce que c'est que des pores sur une peau.
Oui. Ça. Mais au moins, Nelly Arcan, elle n'avait pas Instagram. Mais ça, ouais, c'était peut-être une bonne chose au final.
Alors, peut-être fait bon usage à mon avis.
Ouais.
Bah, justement, la question qui arrive s'enchaîne très bien avec ce qu'on vient de raconter. Pomme, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue ?
Très bonne question également. Je pense que je suis née femme parce que j'ai quand même grandi dans un monde très binaire où j'avais un papa, une maman et que j'avais des sœurs, un frère et que tout était très binaire et que moi j'ai pas. Je pense que je fais partie de la dernière génération pour qui. Ça a été très très compliqué l'homosexualité, l'identité de genre et maintenant il y a certains milieux dans lesquels on peut dire que c'est un petit peu plus fluide et je vois même mon petit frère par exemple qui a 4 ans de moins que moi, qui a grandi avec les mêmes parents que moi, il est beaucoup plus à l'aise avec l'idée de dire que dans sa tête tout le monde est bisexuel, que lui si voilà, je suis sûre que il se sent pas atteint dans sa masculinité quand on lui dit mais toi est-ce que tu pourrais coucher avec un garçon. Et ces 4 ans là ils sont importants et il y a eu un espèce de gap et moi quand j'ai grandi je me suis tout de suite identifiée à être une fille, c'est vrai, mais en même temps, tout le monde disait que j'étais un garçon manqué. Et c'est marrant, cette expression, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et en fait, quand j'avais 6 ans, ma mère, elle m'a coupé les cheveux comme maintenant. Donc très court, comme un garçon, entre gros guillemets. Et tout le monde pensait que j'étais un garçon. Et en fait, comme moi, je voulais faire du foot et que je voulais faire des activités dites masculines, en fait, je me rends compte que même si je suis née fille et que je me suis jamais vraiment posé la question, quand je refais l'histoire de mon enfance, encore une fois, je me suis jamais identifiée à ce que veut dire être une femme dans la société. Mais je suis née femme et je suis contente d'être née femme. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que ça et que, au final, la société dans laquelle j'ai grandi, le milieu dans lequel j'ai grandi, m'a donné des fausses informations sur ce que c'était que d'être une femme et d'avoir envie d'être une femme d'incarner cette identité-là. Donc, je pense que c'est un peu des deux. J'ai l'impression d'être née femme et de jamais m'être posé la question parce que j'avais pas forcément la possibilité ou la liberté de me la poser, d'avoir été assez vexée quand on me disait que je ressemblais à un garçon. Et en même temps, d'être beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans des choses qui sont pas considérée comme féminine. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir... j'ai l'impression d'être née femme et aussi de l'être devenue. Enfin, c'est un espèce de mélange. Et puis, c'est marrant parce que je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais je me souviens plus. Je crois que c'était dans le podcast Coming Out. Et en fait, j'ai l'impression aussi d'être... adolescente dans la, le genre, parce que j'ai l'impression que j'ai jamais, je me sens pas femme, je me sens fille plus que femme. Et ça, c'est assez étrange, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression d'être une femme adulte. J'ai souvent l'impression d'être une fille. Et parce que je pense que femme adulte, ça veut dire sexualisée aussi. Ça veut dire être... totalement formée, ça veut dire avoir eu ses règles, ça veut dire être apte à la reproduction. Et dans ma tête, c'est très bizarre, c'est peut-être un truc un peu primate, mais du coup, ça me fait peur de dire « Ah, je suis une femme ». Et ça se ressent, même dans la façon dont je m'habille, j'ai tendance à... J'ai pas du tout envie que les gens soient en mode « Ah, c'est une femme ». Genre, j'ai pas envie d'être... genrée souvent, je préférerais que les gens sachent pas trop. Et avec ma coupe de cheveux, là, du coup, c'est un peu plus facile. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman, encore une fois, je parle d'elle en positif, parce que des fois, comme je dis que dans mes chansons, qu'elle a été relou et tout, je fais un petit équilibre avec les interviews. Mais, elle était très, très peu concernée par son apparence. Et elle s'est jamais trop maquillée et elle s'est pas épilée non plus. Et en fait, du coup, moi, j'ai quand même eu un rapport rapidement avec le maquillage, l'épilation, même le fait de porter des soutiens-gorge et tout. Ma mère, elle n'en a jamais porté, qui était plus facile que plein d'autres filles autour de moi. Ouais. Ça, c'était une grande chance. Mais bon, c'est deux trucs différents parce qu'il y a... Il y a ça qui était une chance, mais il y a aussi comment je me sens profondément au-delà de l'épilation, au-delà de porter un soutien-gorge, au-delà du maquillage. Et ça, ouais, c'est toujours un peu un sujet. Moi, j'aime pas trop m'habiller moulant parce que j'aime pas, en fait, qu'au premier regard, on puisse se dire cette personne est une femme, parce que ça vient avec tellement de trucs pas cool que j'ai pas envie, je crois, des fois. Donc, c'est un très bon sujet, encore une fois, qui pourrait être... débattu pendant des heures, mais...
Là, c'est un peu l'objet de la poudre, hein. C'est pour ça que je fais 150
mais c'est fou, peut-être qu'il y a j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais...
Pas... Non, cet aller-retour, il est intéressant, en fait. C'est aussi, il faudrait définir femme, quoi, c'est ça.
Voilà,
c'est ça. Il
faudrait
répondre presque à ma question, genre, définissez femme, parce que ça n'a pas vraiment... En tout cas, il y a un endroit où vous êtes venu rejoindre un cœur de femme. En 2021, vous avez écrit une tribune dans Mediapart.
Oui.
Et je me rappelle, vous m'aviez envoyé un petit message avant d'envoyer cette tribune, parce que vous saviez pas... Vous hésitiez, ou vous cherchiez la bonne formulation. Et c'est un texte vraiment très fort. Ça vous dérange pas que je lise quelques phrases issues de ce texte ? Vous avez écrit « De mes 15 ans à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque, évidemment. J'ai été l'objet de quelqu'un, façonné selon ses fantasmes et déviances psychologiques. Sois plus sexy, moins enfant. J'aurais dû te baiser. Reprends tes chansons de merde et casse-toi, débrouille-toi. Mais maintenant, vous connaissez mon camp. Je cherche les mains tendues vers toutes les personnes qui ont peur quand elles tombent, quand elles souffrent et quand le courage les déserte. » Bon, j'ai fait un petit digest, hein, j'ai pris des petits briefs qui n'étaient pas forcément... Mais ce que je voulais savoir, je préfère que les gens aillent lire le texte pour comprendre ce qui s'est passé, puis vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous avez voulu l'écrire. On est en 2021, donc on est plus de 3 ans après le début de MeToo. Vous êtes déjà très informée, déjà impliquée. Pourquoi à ce moment-là, vous avez dit « Ok, maintenant, je balance, en fait. »
Peut-être que c'est un moment où je me suis sentie assez puissante, dans le sens assez installée dans quelque chose de stable, parce que avant ça, bon, déjà, ça a été un très long processus de me rendre compte que cette situation avait été une situation problématique. Et en fait, moi, avant 2018 et avant le MeToo du cinéma, j'avais jamais envisagé cette relation comme quelque chose de toxique ou de malsain. Et ensuite, j'ai sorti Les Failles en 2019, et c'est cet album-là qui m'a donné une légitimité en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique, et aussi, du coup, par extension, en tant qu'humaine et dans ma vie plus, plus personnelle. Et en fait... début 2021, j'ai appris que j'étais à nouveau nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie artiste féminine de l'année. Ça faisait donc un an que j'avais sorti mon album. J'avais vendu beaucoup d'albums, j'avais fait beaucoup de promos, j'avais fait beaucoup de concerts. Et en fait, je pense que tout ça m'a donné une confiance en moi que j'avais jamais eue avant. Et aussi de me dire, ben voilà, t'as été couronnée de ce succès complètement inattendu. T'as cette légitimité en tant qu'artiste et aussi, du coup, cette impression d'avoir les rênes que j'avais jamais eues avant et de pouvoir décider. Je me souviens que ça coïncide avec le moment où, avec les victoires, j'ai pu décider de la chanson que j'allais chanter aux victoires, alors que l'année d'avant, j'avais pas le droit de décider et que c'était plutôt imposé.
Vous en avez eu deux, hein, des victoires, ouais. Faut le rappeler quand même. Hein,
exact.
Pour les failles, bravo.
En 2020 et en 2021. Ouais. Et en fait, en 2021, c'était la deuxième fois que j'y allais. Il y avait cette espèce d'évolution incroyable entre l'année d'avant, où je venais de sortir les failles, et l'année 2021, où j'étais installée et où j'avais eu plein de prix et plein d'honneurs et plein d'attention. Et je me suis dit... Déjà, pour moi, symboliquement, c'est un moment positif dans ma vie. C'est un moment de projecteur sur mon projet. Et en plus, je crois que... oui, c'est ça. J'avais sorti encore une réédition. Enfin, en tout cas, j'étais dans un truc positif et créatif. Et je me disais, j'ai envie, à ce moment-là, de mettre cette histoire déjà derrière moi et donc, pour la mettre derrière moi, de l'exposer. Ça, c'était peut-être 30% de ce qui m'a motivée. Et ensuite, il y avait 70% de profiter de mon statut pour raconter une histoire qui peut-être allait aussi rejoindre d'autres femmes. Parce que moi, j'avais découvert et réalisé que cette histoire m'était arrivée en lisant un tweet sur Twitter en 2018. Et je me suis dit, en fait, si cette lettre sort, elle sera lue parce que j'ai la chance d'avoir une audience, parce que je vais aller aux Victoires de la Musique et que je gagne ou que je perde, je vais la sortir le jour des Victoires de la Musique. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui vont la lire et que potentiellement dans ce flot de personnes il va y avoir des gens qui vont se reconnaître dans des histoires qu'ils ont vécues et qui vont peut-être se sentir moins seuls, qui vont se sentir entendus, qui vont se sentir écoutés et proches de cette histoire. Et moi, ça m'a énormément aidé de lire ce tweet au final, parce qu'il y a plein de choses qui étaient bloquées dans ma vie, il y a plein de choses que je comprenais pas de ma personnalité, que je comprenais pas de mes réactions, qui sont liées à cette histoire. Et c'est en partie pour ça que j'ai eu envie d'écrire cette lettre, et aussi un petit peu parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin, je crois, de mettre cette histoire dans une boîte, et pour la mettre dans une boîte, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient pas du tout au courant, même... Genre mon père, il n'était pas au courant quand j'ai sorti la lettre en 2021, alors que c'est une histoire qui date de 2013. Des amis d'école, des gens qui... Et c'était la manière la plus simple finalement pour moi de dire à tout le monde, voilà, ça c'est arrivé. Et voilà peut-être pourquoi à tel moment j'ai été comme si, j'ai été peureuse, j'ai été traumatisée. Et c'était un grand soulagement pour moi et c'était comme une sorte de paix que je faisais avec moi-même par rapport à cette histoire et aussi de plateforme, d'espérer donner une plateforme aussi à d'autres gens. Et j'ai reçu plein de messages de gens aussi qui m'ont raconté des histoires. Enfin, c'est ce que ça fait en général.
Il faut être d'ailleurs préparé à ça, hein, parce que c'est pas forcément la partie la plus facile d'aller lire les...
Tout à fait. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai toute une liste de personnes problématiques dans l'industrie de la musique que personne ne connaît.
Ouais.
Et moi, je sais. C'est pas mal.
Il faut aller lire Me Too Music, parce que c'est assez hallucinant ce qui se passe et l'omerta qui règne.
Bah ouais.
Il y a encore beaucoup de choses à changer dans ce milieu comme ailleurs.
Ouais.
D'ailleurs, je vous trouve assez incroyable parce que donc il y a ce premier album, on vous en avait parlé en filigrane, hein, vous avez vraiment été, on vous a collé d'autres auteurs, d'autres compositeurs, on vous a fait votre DA, etc. Vous l'avez un peu désavoué, cet album, au fil du temps, même s'il y a quand même trois chansons qui sont belles, celles que vous avez écrites de vous comme par hasard, parenthèse. Ensuite, vous avez décidé en fait de faire un geste extrêmement radical avec l'écriture des failles. Il y a un petit documentaire qui est sorti en même temps que le disque où vous racontez comment vous l'avez écrit en vous isolant, vraiment. Vous êtes partie toute seule dans une petite maison au fin fond de la campagne, sans réseau, sans wifi. Et je trouve que ces images sont très touchantes parce qu'on vous voit vous mettre dans cette fameuse chapelle avec votre enregistreur pour tester votre voix. On vous imagine toute seule la nuit à pleurer sur vos textes, etc. Et vous vous êtes isolée. Mmh. Et je trouve que cette idée de solitude, quand on est une femme, elle va pas de soi. Mmh. C'est quelque chose sur lequel, en plus, je réfléchis beaucoup. Moi, personnellement, en ce moment, je trouve que c'est fascinant comme thématique. On n'est pas du tout incité à choisir la solitude quand on est une femme. Non. Et vous avez fait ce choix radical de dégager tout le monde autour de vous pour faire votre petite cuisine toute seule, ce qui vous a rapporté de victoires au final.
Ouais.
C'est quand même... intéressant, quoi.
Oui, c'est intéressant. Et c'est encore un sujet dans ma vie parce que je suis une personne qui, qui est un grand besoin de solitude et parfois je me sens pas légitime. En fait, je me sens jamais légitime d'avoir ce besoin de solitude. Et c'est marrant parce que quand je dis à mes proches, aux gens autour de moi, que ce soit des amis ou des gens avec qui je suis dans des relations de couple, quand je leur dis bah là j'ai besoin d'être seule, j'arrive pas à le dire autrement que de méchamment, parce que dans ma tête c'est méchant d'avoir besoin de cette solitude et c'est pas normal. Et c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal à communiquer de façon douce, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est tellement pas bien vu et que c'est tellement, comme vous disiez, pas encouragé d'avoir ce besoin d'être seule et qu'en fait on n'est pas conditionné en tant que femme à se sentir légitime d'être seule, parce que ça fait aussi peur. Il y a plein de situations où quand on est seule, on a peur, où on a l'impression qu'en fait, on n'y arrivera pas toute seule. Qu'aujourd'hui, encore à 26 ans, je suis incapable de dire à mes proches, genre là, j'ai besoin d'être seule, de façon gentille ou douce, parce que dans ma tête, ça ne l'est pas de toute façon. Et c'est un vrai sujet dans ma vie, parce que du coup, ça crée des engueulades et des problèmes de communication, parce que je l'amène toujours d'une façon qui est comme si moi-même j'étais dégoûtée de ressentir ça, en fait. Et je suis là, genre... Et parfois, soit je le dis pas, et en fait, je laisse deviner l'autre personne et me dire, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, t'as envie d'être seule. Soit je le dis, mais tellement maladroitement que c'est toujours mal pris. Et c'est un truc sur lequel j'essaie d'évoluer dans ma vie en ce moment. Et j'ai un immense besoin de solitude. Mais vraiment, je me rends compte que... Par exemple, pendant le tournage de mon film qui a duré 6 semaines, je dis mon film, mais du film dans lequel j'ai joué, d'une réalisatrice qui s'appelle Elena Klotz, dans lequel je me suis fait raser la tête. J'avais 6 semaines de tournage et pendant ces 6 semaines-là, j'avais prévu, pour être complètement impliquée dans le film, j'avais rien prévu d'autre, évidemment, parce qu'en plus, je savais que ça représentait 14 ou 15 heures de tournage par jour. Et ça a été un des meilleurs moments, je pense, de ma vie, une des meilleures périodes de ma vie, de rentrer chez moi et de ne voir personne, et de cuisiner, et de manger, et de me coucher, et de recommencer le lendemain, et d'être seule vraiment pendant 6 semaines, sauf la journée du travail, mais tous les moments en dehors du travail, de les passer seule. Je me suis remise à écrire des chansons de façon spontanée, ce que je ne faisais plus jamais, parce que ça fait 5 ans que je dois mettre des résidences d'écriture dans mon planning pour écrire.
Je connais tellement ça.
Voilà. je me suis remise à cuisiner, ce que je ne faisais plus non plus, parce que en fait, j'avais perdu le contact avec les gestes du quotidien qui sont nécessaires et qui passaient à la trappe quand je travaillais et qu'ensuite je rejoignais des gens ou que voilà. Et en fait, c'est vraiment un grand sujet dans ma vie, parce que j'ai l'impression parfois d'être inadaptée tellement j'ai besoin d'être seule, quoi. Et je me dis, mais comment on fait quand on fait ce métier-là qui implique d'être tout le temps avec des gens, pour être en couple, pour être amie avec des gens? Et en fait, je pense que dans mon cas, en tout cas, c'est de... déjà déconstruire l'idée que c'est pas normal, et du coup dans la communication de le communiquer avec moi-même et avec les autres de façon totalement assumée et douce, en fait, de dire bah voilà. Mais il y a un truc où moi je me sens hyper égoïste, je me sens hyper auto-centrée, j'ai l'impression que c'est un manque de considération pour les autres. Et en couple, justement, il y a ce truc où souvent je suis avec des personnes qui n'ont pas forcément ce besoin de solitude. Et alors que c'est principalement des femmes, donc je sais pas si c'est du coup vraiment un trait de caractère ou quoi, mais et en fait ça peut vite être considéré comme un manque de considération et un manque d'adaptation, et de dire bah ok, t'as envie d'être seule, mais en fait on est aussi en couple, et du coup quand on est en couple il y a des concessions, et voilà. Et en fait c'est hyper compliqué pour moi. Mais il y a une autrice que j'adore qui s'appelle Tove Jansson, qui parle beaucoup de ça aussi, de la solitude et du couple. Elle, en l'occurrence, elle était à la fin de sa vie en couple avec une femme, mais elle a écrit un livre sur une maison, je ne sais pas si elle a vraiment existé, où en fait, elle et son amoureuse, elles avaient chacune une maison collée, et en fait, il y avait juste le grenier qui était en espace commun, et elles se retrouvaient tous les soirs pour regarder un film dans le grenier, mais la journée, elles n'étaient pas dans la même maison, en fait. Et ça, moi, c'est mon idéal de vie.
Ou voilà. Comme le film L'amour flou aussi, de Romane Boringer, qui était vachement bien là-dessus.
Ah, je ne l'ai pas vu.
C'est un couple qui se sépare, en fait, ils prennent 2 appartements et ils pètent un mur juste pour pouvoir communiquer, mais ils ont chacun leur...
Waouh.
Ouais, il y a les enfants au milieu, évidemment, qui... Enfin bon.
Bah, faut être très riche, mais c'est l'idéal.
Oui, c'est ça, exactement, ça coûte super cher, en fait.
C'est ça.
Mais je vous ai entendu dire aussi que cette possibilité de concilier la solitude et la vie sociale, vous la trouviez plus facile au Québec.
Oui.
À Montréal notamment, où apparemment, moi je ne suis jamais allée, je rêve d'y aller, mais vous arrivez à trouver à la fois la solitude et la vie autour.
Oui, parce que la géographie de l'urbanisme, enfin je ne sais pas comment dire, mais comment la ville est fabriquée, la géographie de la ville et la proximité avec la nature qui est beaucoup plus présente qu'en France, et le fait que les rues, rien que les rues, sont quatre fois plus grosses qu'à Paris, qu'on voit le ciel, que en fait, y a un sentiment d'oppression dans les villes européennes parce qu'on est beaucoup et qu'on ne voit pas beaucoup le ciel et qu'on vit dans des petits espaces et que les rues sont petites, qui du coup amplifient parfois mon besoin de solitude parce que j'ai l'impression d'être toujours un peu confinée. Mmh. Alors que quand je suis à Montréal ou dans des espaces avec de la nature, je peux vachement plus c'est beaucoup plus facile pour moi d'être avec des gens dans la nature ou dans des espaces où je peux juste aller prendre une marche pendant une heure et demie et revenir. Et en fait, c'est aussi en lien avec l'horizon, avec le ciel, avec les éléments de la nature et avec l'environnement. Et je me rends compte que voilà, c'est juste qu'en Europe, on est beaucoup dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'espace. Et quand on va ailleurs, enfin, notamment au Canada, parce que je n'ai pas non plus visité la terre entière, mais juste Montréal, les espaces sont plus grands. Comme la vie est moins chère, les appartements sont plus grands aussi. Donc, c'est plus facile, même à plusieurs, d'avoir chacun son bureau, chacun son espace, d'avoir un petit jardin, c'est possible aussi, c'est abordable. Et juste sortir dans la rue, c'est vraiment une libération et une bouffée d'air frais. Alors que sortir dans la rue à Paris, c'est pas forcément libérateur ou rafraîchissant. Ça peut être aussi hyper oppressant.
C'est clair.
Voilà. Et du coup, ça change vachement mon rapport aussi à la solitude. J'ai l'impression de pouvoir être seule avec des gens à Montréal vachement plus qu'à Paris, parce que ça existe aussi de réussir à se retrouver dans une forme de solitude avec certaines personnes.
Seule avec du monde autour, hein. Elsane voilà. l'a bien dit, mais
ça existe.
C'est vrai que cette chanson...
Ouais. Mais c'est pas facile à Paris parce que, à moins d'être multimillionnaire, on a des petits espaces et tout est petit. Et donc, ben, voilà, même quand on veut aller au but de Chaumont à Paris, c'est impossible en été d'avoir l'impression qu'il y a de l'espace parce qu'on est trop, en fait, juste on est trop pour une ville trop petite avec une architecture. C'est ça, je crois, je parlais d'urbanisme, mais n'importe quoi. C'est vraiment juste comment la ville est faite qui n'est pas vraiment compatible avec l'idée d'une grande solitude, d'une indépendance, de respirer, quoi. En fait.
Pomme, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ?
Pas trop en ce moment, parce que justement, je ne vis pas seule chez moi et je partage mon appartement et du coup, j'ai un peu fait de l'espace et j'ai pas trop de chambre à moi. Mais c'est marrant parce que je suis capable de trouver des espaces. J'ai l'habitude, comme j'ai beaucoup voyagé depuis toujours et que depuis très jeune, je change beaucoup d'endroits et que j'ai pas l'habitude de m'installer très longtemps dans des endroits, je peux facilement me recréer ce genre de petit espace à moi. Mais c'est vrai que en ce moment, j'ai pas vraiment de bureau ou c'est d'ailleurs un sujet dans ma vie parce que je compose pas beaucoup de musique du coup, parce que tant que j'ai pas mon espace fermé où personne ne peut entrer. Et par exemple, en ce moment, ça va plus être sur la tournée, où même si je suis avec 14 personnes, dans la journée, j'ai des petits moments de vide qui n'existent pas trop quand je suis à Paris, où je suis beaucoup plus occupée. Et là, il suffit que j'aille faire une balade ou que j'aille explorer un peu, et justement, je ressens cette ouverture. Et donc, je peux me recréer une chambre à moi, mais même moi, je peux être à l'extérieur et avoir l'impression de... Mais c'est très lié, en fait, au fait de disposer de mon temps. Et de pas forcément être avec des gens. Donc si je suis seule et que je dispose de mon temps, je peux être à peu près n'importe où. Là, je vais retourner aussi faire des résidences d'écriture dans différents endroits. Je crois que je vais dans un château dans pas très longtemps, en mars, avec que des femmes, justement. Et je suis obligée, moi, de créer en fait, des espaces dans ma vie pour trouver des endroits où j'ai de la liberté. Parce que je suis très entourée, je suis pas toute seule chez moi, je suis tout le temps avec des gens en fait, en vrai. Et, Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si je ne mets pas dans mon planning des moments d'écriture, je n'ai pas, la chance d'avoir un appartement assez grand pour avoir un atelier ou un bureau, ce qui serait le rêve ultime. Mais je n'ai pas ça dans mon appartement, j'ai vraiment un salon, une chambre. Et en fait, bah, du coup, je n'ai pas, cet espace-là, surtout quand je partage mon appartement avec quelqu'un d'autre. Et que du coup, bah, en plus, parce que ma chambre pourrait être mon bureau, mais comme je ne suis pas toute seule, ma chambre n'est pas mon bureau, puisque je ne peux pas être toute seule. Et... Donc, pour le moment, je suis plutôt obligée de créer des espaces dans mon planning d'écriture et de dire, bon, même si je n'écris pas ce jour-là, je vais dans un endroit qui sera mon endroit, ma chambre à moi pour la journée. Mais je n'ai pas d'endroit...
Qui va ressimuler la créativité voilà. aussi. Ça me fait penser à un marin qui va trouver les occasions de dormir. Comme il n'y a pas de pleine nuit de 8 heures, il va dormir un quart d'heure là, une heure
c'est
là.
C'est un peu ça.
Il y a un petit peu de ça aussi.
C'est un peu ça, mais j'aspire quand même à avoir... mon rêve, ce serait d'avoir un atelier ou un endroit où je puisse aller. Mais en même temps, je dis ça et mon planning, il est tellement rempli qu'il faudrait aussi que j'ai la volonté de faire moins de choses au quotidien pour écrire plus. Voilà. Donc, je pense que ça me convient aussi comme ça parce que j'attrape par-ci par-là des moments de créativité parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'occupent aussi et qui me rendent heureuse et qui m'épanouissent. Mais en général, quand je vais écrire pendant des longues périodes, je vais aller dans des endroits m'isoler, justement comme en Bourgogne, quand j'ai écrit Les Failles ou là, au mois de mars, dans un château ou ça peut même être dans un studio d'enregistrement que je vais prendre pour une journée et puis je vais composer toute la journée. Mais je n'ai pas cet espace-là chez moi et ça me manque un peu. Et je pense que c'est quelque chose que je peux chercher à mettre en place dans les prochaines années parce que c'est hyper important. Et en plus, moi, je ne peux pas créer avec quelqu'un d'autre dans la pièce. C'est impossible. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, mais moi, je ne peux pas jammer être avec d'autres gens en train d'écrire une chanson. C'est impossible parce qu'une fois sur deux, je pleure, je suis dans un truc hyper intime et tout. Donc c'est compliqué.
Ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
La poudre, pour moi, ça me fait penser à la poudre de Perlimpinpin. Ça me fait penser à... la poudre aux yeux, enfin, ça me fait penser à un truc magique, mais pas forcément hyper positif. Enfin, ça me fait penser à genre comme un tour de magie et d'être un peu dupé. J'ai l'impression que ça ramène à des expressions comme la poudre aux yeux ou même la poudre de perlimpinpin. C'est des trucs. Mais la poudre de perlimpinpin, c'est un truc pareil que la poudre aux yeux. C'est genre un truc magique un peu.
Ça me fait penser à Claude Ponty, au dessinateur qui a fait les illustrations de votre album. Oui, ce genre de mots qu'on pourrait trouver dans ces histoires,
perlimpinpin. Voilà, perlimpinpin, tout à fait.
C'est un truc un peu doux amer.
Un peu lié à l'enfance et en même temps lié au fait de se faire un peu dupée aussi, parce que peut-être j'ai été dupée dans ma vie beaucoup et que du coup j'ai l'impression que, je sais pas, la poudre, et puis aussi malheureusement ça me fait penser à la cocaïne parce qu'il y a plein de gens dans l'industrie de la musique qui prennent de la cocaïne.
Et allez, comment ça balance en dernière minute d'épisode.
Non mais la poudre, ça évoque tellement de choses différentes, mais la poudre de perlimpinpin et la poudre aux yeux et ce truc de paillettes et d'apparence qui peut tomber quoi quand le masque tombe un peu, ça me fait penser à ça.
J'adore.
Ouais.
Merci beaucoup.
Bah, avec plaisir.
Merci.
J'avoue, j'ai parlé de la cocaïne comme ça.
J'adore.
J'ai balancé.
Merci à Pomme d'être venue faire parler la poudre avec moi. La chanson sous l'introduction et le titre Nelly, tiré du dernier album de Pomme, Consolation. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.